C'est un podcast Vivre FM.
Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
Et aujourd'hui, on reçoit le témoignage, deux témoignages d'aidants. Charlotte et Philippe Franck, qui sont aujourd'hui à la retraite. Ils ont élevé quatre enfants, dont deux sont atteints de schizophrénie. Alors, leurs enfants ont aujourd'hui la cinquantaine. Et Philippe et Charlotte sont toujours aidants, bien sûr. Ils vont nous raconter leur parcours d'aidance. Ils publient un livre, L'espérance est un chemin escarpé, des parents à l'épreuve de la maladie psychique, aux éditions MAM. Alors, quel bilan ils tirent de leur aidance, quels conseils ils peuvent donner. On les retrouve après le Flash Info.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Et on retrouve nos deux invités, Charlotte et Philippe Franck. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Vous m'entendez bien ?
Oui, c'est bon.
Nous entendons.
Parfait, très bien. Donc vous avez publié il y a quelques mois « L'espérance est un chemin escarpé », des parents à l'épreuve de la maladie psychique chez MAM. C'est votre histoire que vous racontez dans ce livre. Alors vous avez eu quatre enfants et puis au fil du temps, il s'avère que Brigitte et Benoît ont développé une schizophrénie. Alors à l'époque, c'était dans les années 80, est-ce que ça a été diagnostiqué facilement? Quel était l'état des connaissances?
Alors, c'est vrai que le diagnostic a été pas fait du tout facilement.
Oui.
Brigitte, elle avait déjà des symptômes enfant, mais qu'on n'avait pas du tout diagnostiqué comme des troubles psychiques. Et donc, ça a mis des années, si vous voulez, à se manifester vraiment. Et pendant tout un temps, les psychiatres me disaient que c'était de ma faute, que j'étais angoissée, etc.
Ah oui, oui, c'est vraiment...
Ça a été très, très dur, effectivement. Ben, jusqu'au moment où notre fils Benoît, lui, a déclenché des troubles qui étaient encore plus nets, si vous voulez, que ceux de Brigitte.
Oui.
Et là, on a consulté un autre psychiatre qui... a vu plus clair sur la situation de nos deux enfants.
Oui, mais alors dans votre livre, à propos de Benoît, vous ne parlez pas tout de suite de schizophrénie, on parle de borderline, on parle de psychose, c'est venu très tard alors?
C'est venu à 16 ans, 15-16 ans.
Oui.
Et c'était le diagnostic, en fait, de borderline a été posé assez vite. Je ne savais pas très bien ce que c'était, mais ce qui m'a parlé, c'est une image qu'a employée le psychiatre, et qui a dit vous êtes avec lui sur une ligne de crête, c'est comme une ligne frontière, il peut basculer d'un moment à l'autre dans la psychose.
Oui.
Et vous l'accompagnez. Alors cette image m'a beaucoup parlé, parce qu'en montagne, c'est une image classique quand on est sur des arêtes.
Oui.
Soit de neige, soit d'escalade, où on a le vide des deux côtés, et ça tient qu'à nous de tenir l'équilibre.
Oui. Oui. Et alors, votre fille Brigitte, vous l'expliquez dans votre livre, elle avait des difficultés d'apprentissage, donc qui n'étaient pas liées à ce trouble psychique. Donc déjà, dès le départ, vous étiez très investi, ça vous prenait beaucoup de temps, vous étiez aidant déjà dès le départ.
Ah oui, complètement, oui, oui. Oui. Béatrice, c'était dès la maternelle, enfin même avant, parce qu'elle avait quand même marché assez tard, etc. Enfin, il y avait différents problèmes, mais c'est justement là qu'il y a eu un manque d'informations réelles, parce qu'on l'avait fait tester à la salpêtrière, et que justement là, on nous disait qu'elle avait un défaut de logique.
Oui.
Bon, bah, ça c'était évident, mais c'est tout. Et après, quand je voulais demander des explications un peu plus précises, c'est là qu'on me disait que c'était moi qui étais angoissée. Donc, oui, j'avais pas de réponse.
C'était de votre faute, en fait. On attribuait les problèmes de votre fille à votre façon d'être.
Oui, c'est ça. À ce moment-là, c'était
oui.
Comme ça.
C'est assez classique de reporter sur la mère, par hérédité, tout ce que pouvait souffrir ou subir l'enfant.
Oui. Et vous avez
mon rôle, c'est plutôt d'accompagner ma fille, dans les différentes interventions ou consultations qu'elle a eu à faire. Et c'est là que je commençais à comprendre petit à petit comment, et en travaillant avec les psychologues quand j'allais la chercher, je comprenais peu à peu ce qui se passait, mais très progressivement.
Oui, oui.
Personne ne parlait de vraiment de psychose.
Oui.
Donc, c'est après, quand Béatrice a eu des symptômes plus irrationnels, que là, on a parlé de psychose, mais c'était vraiment beaucoup plus tard. Or, oui. Finalement, les troubles cognitifs qu'elle avait et les difficultés dans l'espace sont des symptômes mineurs dans la schizophrénie, mais ça existe.
Ah, ce sont des symptômes de la schizophrénie?
Ça peut être.
Oui, ça peut être.
On peut généraliser.
Oui, bien sûr.
Et dans les troubles schizophréniques, il y a des troubles de la cognition, de l'attention, de...
Oui.
La volonté, etc.
Et vous le racontez, votre fille a son permis de conduire et puis elle a un accident parce que elle a eu un défaut d'attention. Donc il y a vraiment ce problème constant.
Oui. Oui, tout à fait.
Et elle est la seule de la famille qui a eu son permis du premier coup.
Ah.
C'est quand même assez remarquable.
Oui.
Mais l'aventure s'est un peu terminée par un accident qui aurait pu être extrêmement
très,
grave.
Très grave. Et du coup, elle ne conduit plus.
Et du coup, elle ne conduit plus. Non. Non, il n'y avait plus question parce qu'elle a trop de troubles d'attention.
Oui. Ouais. Charlotte et Philippe, ça a été très compliqué. Vous le racontez, l'espérance est un chemin escarpé. Ça a été très très dur pour vous, toute cette parentalité avec vos quatre enfants, dont Brigitte et Benoît, avec toutes leurs difficultés psychiques. Benoît, ça a été peut-être le plus compliqué puisqu'il y avait, c'était très difficile de comprendre, de l'accompagner. Qu'est-ce qui vous a aidé? C'est la psychiatrie qui vous a aidé?
C'est un psychiatre essentiellement. Je parle pour moi parce que je pense que mon épouse avait déjà trouvé elle avait des capacités d'intuition que je n'avais pas. Donc c'est le psychiatre essentiellement qui m'a ouvert les yeux, je dois dire assez brutalement. Et ça ne m'a pas plu du tout au début parce qu'il m'a donné des ordres en me disant vous devez faire ça parce que sinon votre fils ne s'en tirera jamais.
Oui.
Donc j'ai compris, et à ce moment-là, j'ai démarré tout un chemin d'accompagnement en comprenant peu à peu ce qui était en train de se passer. Et puis notre rôle, le mien en particulier de père, que je trouvais très limité, mais essentiel quand même, parce que c'était une présence. Et ça commençait, ce n'était que le début.
Oui. C'est lui qui vous dit à un moment de bien respecter les deux rôles. Un parent doit de s'occuper de telle et telle chose et puis un autre de telle ou telle chose, c'est ça?
Ah, c'était ouais. Plus qu'une suggestion, c'était normalement le rôle du père, vous devez vous occuper avec lui de tout ce qui est plutôt, disons, matériel et l'embarquer ou l'aider à assumer des situations qui étaient tout à fait matérielles, y compris l'argent. Et puis des choses comme la tenue de tous les jours, c'était loin d'être évident.
Oui.
Il y avait un tel désordre. J'ai des souvenirs d'achats entiers qu'il faisait sur un compte qui était en découvert. Et ces achats, c'était des habits qu'il allait mettre à la poubelle le lendemain.
Donc oui,
ça, c'était un symptôme et on n'était pas tout seul. Parents à vivre des choses comme ça ou accompagnés. Quand on parlait avec d'autres parents, ça pouvait se produire.
Oui, oui. Et quel conseil vous donneriez justement, vous qui avez vécu tout ça, votre fils Benoît a aujourd'hui une cinquantaine d'années, il est marié, enfin il est en couple, il a deux enfants.
Non, quel conseil, marié, oui.
Quel conseil vous donneriez justement à d'autres parents qui découvrent cette situation, la schizophrénie d'un de leurs enfants?
Donner un conseil, c'est une énorme patience. Ne pas se décourager, parce qu'il y a vraiment des situations très décourageantes. Et puis se faire aider par une association, des associations qui sont compétentes pour connaître l'environnement, pour trouver des bonnes adresses, ou des adresses, parce qu'elles ne sont pas toujours bonnes, mais des adresses de... Ce n'est pas tellement de spécialistes, c'est plutôt concernant le logement, concernant le tout ce qui est d'ordre financier. Il y a, je sais que la banque par laquelle nous sommes passés avait conclu un accord avec moi pour régler, Bruno était encore mineur, et pour contenir son compte et éviter les dépenses superflues.
Oui. Et ça a fonctionné.
Et là, ça a fonctionné, je dois dire, c'était un point pour moi très positif de le voir accepter cette contrainte. Je crois d'ailleurs que j'ai compris après que la personne qui s'occupait de nous à l'agence de la banque était dans la même situation que nous. Donc ça a pu aider.
D'accord, effectivement, oui. Et est-ce que... alors, au départ, c'était dans les années 80, vous avez découvert ces problèmes de vos deux enfants, de deux de vos enfants dans les années 80. Il y avait peu d'aide, j'imagine, à l'époque. On découvrait ces problèmes psychiques, c'était ça en France.
Enfin, je ne sais pas si on les découvrait, parce que quand même, il y avait différentes procédures de soins, évidemment, qui ont beaucoup évolué, surtout avec l'apparition des neuroleptiques, qui a quand même un peu sauvé la mise, même si c'est pas la panacée. Enfin, c'est grâce à ces traitements que nos enfants ont pu se stabiliser. Donc,
oui, et sans les médicaments, ils n'auraient pas pu se stabiliser.
Ah oui, ça, alors là, s'il y a un conseil à donner, c'est que il faut vraiment, vraiment que les personnes ont des troubles psychiques soient soignés, soient suivis, accompagnés, et que, alors on sait très bien que c'est très difficile pour eux d'accepter cette régularité du soin, mais c'est indispensable. C'est indispensable parce que sinon il y a des rechutes qui sont pires que qui favorisent des symptômes encore pires qu'avant.
Oui.
Donc Et c'est vrai qu'il y a des effets secondaires qui sont quand même difficiles à supporter. On peut comprendre que ceux qui sont encore jeunes aient du mal à accepter de prendre ces traitements parce qu'ils prennent du poids, parce que la libido est un peu éteinte, parce que voilà, l'attention manque, une fatigue, etc. Mais le conseil, c'est vraiment de trouver un moyen, même quelquefois, un peu détourné. Moi, je sais que pour Benoît, il ne voulait pas trop se faire soigner. Finalement, bon, j'avais eu par connaissance l'adresse d'un médecin qui soignait c'était un psychiatre qui soignait par des plantes. Je n'étais absolument pas dupe sur l'efficacité des plantes, mais ça a été une porte d'entrée pour notre fils d'accepter de voir le psychiatre. Ils ont bien accroché ensemble et du coup, après, il a eu un traitement de neurologique. Hein. Les plantes ne suffisaient pas.
Oui, bien sûr. Oui. Et comment vous expliquiez cette maladie, c'est deux de vos enfants qui étaient atteints de cette maladie?
Ben ça, il n'y a pas d'explication.
On s'est souvent posé la question. Alors, hérédité, proche ou lointaine, bon, c'est toujours les éternelles histoires. Il y en a qui se posaient des questions tout le temps là-dessus. C'était nos amis qui nous disaient, mais comment ça se fait, vous n'êtes pas atteint, comment ça se fait que vos enfants soient comme ça? Alors, bien sûr, on peut aller retrouver une grand-mère ou un grand-père ou un arrière-grand-père qui avait des troubles. Hein, ça, on peut toujours. Mais franchement, c'était pas ça qui nous aidait.
Oui.
Et maintenant, comment on va faire pour l'accompagner?
Oui.
C'est un tic que j'ai pris, c'est-à-dire, nous ne posons pas trop la question pourquoi, c'est comment on va l'aider à s'en tirer.
Oui. Et alors, il a fallu trouver de bons psychiatres pour vous aider, parce que tout le monde n'est pas forcément... tout le monde, ça n'accrochait pas forcément avec tous les psychiatres, donc il a fallu trouver les bons. Comment savoir si un psychiatre va pouvoir vous aider ou non? À partir de quel moment on s'en rend compte?
Ben c'est en se rencontrant, là, il y a le fil qui passe ou pas. Alors c'est vrai que souvent les informations, on se les donne entre familles, justement les familles de l'UNAFAM, quand elles ont trouvé un bon psychiatre, évidemment elles en informent les autres.
Oui.
Bon, ce qui ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner aussi avec le malade qui est quand même très différent chaque fois. Donc voilà. Mais c'est vrai que le bouche à oreille sur les compétences et les qualités humaines d'un psychiatre, ça fonctionne. Hein.
Oui.
Et puis il y a l'éthique, si je peux dire, que peuvent avoir l'un ou l'autre des psychiatres. Je sais que celui avec qui nous sommes restés en contact, c'est plus le cas maintenant, mais on sentait qu'il avait d'abord une attention à nous deux, à notre manière de fonctionner, l'un et l'autre, puisqu'on l'a suivi pendant plusieurs années.
Hein, c'est, oui.
En couple, on y allait en couple.
Oui.
Par contre, pour le suivi de notre fils ou de notre fille, en ce qui concerne notre fils, lui a confié notre fils à un de ses collègues psychiatres. Il estimait plus spécialisé avec les jeunes. Le problème de ce psychiatre, c'est qu'il a été d'une relative efficacité pendant un certain temps, mais qu'après, il a refusé de communiquer avec son collègue et qu'il a fait dans son coin un peu ce qu'il a voulu, sans trop dialoguer avec nous.
Mmh. Et puis,
il a repris des méthodes classiques, disons. Ouais.
Et ça a été nuisible, vous pensez ?
Il y a eu des contradictions. Si vous voulez, je vous cite un exemple. Lui, au nom de ce psychiatre plus jeune, disons, au nom de la liberté, la capacité de discernement de son patient, il voulait absolument que satisfaire la demande de notre fils qui était de faire son service national qui existait encore à l'époque.
Service militaire, oui.
Je me suis fait avoir au début parce que pour moi, passer le service national, c'était une étape de croissance pour un homme, c'était archi évident. Le psychiatre qui nous suivait nous disait, vous allez le massacrer. S'il fait son service, il va tomber dans un environnement qui n'est pas forcément hostile. Il y a des bonnes choses dans le service national. Mais pour lui, tel qu'il est bâti, il est complètement à côté de ses pompes, disons. Hein, et dans un service, dans une ambiance de caserne, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Par contre, la discipline, notre fils l'a tout à fait accepté dans le cadre du rugby.
Oui.
Il a pratiqué. Et là, dans un club étudiant, je ne parle pas des troisièmes mi-temps qui étaient où là, il ne valait mieux pas en parler. Il s'est passé d'autres choses. Mais sur le terrain, la compétition elle-même, là, c'est la discipline et la rudesse du sport, ça l'a énormément aidé.
Oui, oui. Et alors, on n'a pas parlé de l'entourage. Vous aviez beaucoup d'amis, bien sûr. Vous étiez un couple avec quatre enfants. Et puis, c'était compliqué d'expliquer à l'entourage que votre fils, Benoît, était parfois violent, faisait des choses bizarres, il ne voulait plus aller à l'école, etc. etc. Est-ce que vous l'avez dit à l'entourage et de quelle manière ?
Ah oui, déjà... Très vite, on a dit, c'était les faits, parler d'eux-mêmes. Donc, on n'avait rien à cacher. Puis, de toute façon, moi particulièrement, j'avais décidé que justement, cette maladie qui est quand même encore restée un tabou, peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais c'est très relatif, au contraire, il fallait en parler. Donc, on en a parlé à nos familles, on en a parlé à nos amis. C'est là qu'on a vu la difficulté de compréhension de beaucoup, parce qu'ils ne comprenaient pas que c'était une maladie. Ils pensaient que c'était des troubles du comportement, que ça allait passer avec l'adolescence,
oui.
etc. Donc, jusqu'au jour où, justement, dans le cadre de l'association UNAFAM, j'ai trouvé un article dans le journal de l'UNAFAM qui explicitait assez facilement, avec des mots simples, ce qu'étaient les troubles psychiatriques. Et j'en ai fait une copie et on a décidé avec mon mari d'envoyer ça à une centaine de personnes qu'on connaissait. Et ça a quand même éclairé pas mal, justement, ces personnes. Bon, certaines personnes n'ont rien compris, mais ça, bon, voilà, c'était comme ça.
Oui.
Mais d'autres ont dit, alors là, on comprend. Et on avait dit, c'est une maladie, donc on se bat avec une maladie, et pour l'instant, en France, on ne peut pas la soigner, pas guérir, on ne peut pas... Voilà, les moyens sont quand même assez pauvres, mais par contre, on a besoin de vous pour inviter notre fils ou notre fille un peu à déjeuner, ou faire un tour en vélo ou des choses comme ça. Et ça, c'est vrai qu'on a été bien aidés par nos amis.
Oui, oui, puisque vous aviez besoin de souffler.
Ah bah oui, parce que bah, autant pour nous que pour eux-mêmes.
Pour voir autre chose, oui.
Voilà, voir autre chose. Mais il fallait toujours que ça soit dans un cadre compréhensif. Parce que, par exemple, notre fils faisait du foot, enfin, faisait du rugby, mais faisait aussi du foot. Ses copains, très gentiment, l'avaient invité. Et puis, Benoît ne s'est pas levé. Comme ça arrive très souvent. Ils veulent faire quelque chose et puis finalement, ils ne le font pas. Et bien, évidemment, les copains, les amis ont... Bon, ils ont pu réessayer de l'inviter.
Mmh.
Il a été mis de côté.
Mmh.
Ça, c'est des souffrances pour eux et pour nous aussi, voilà, en tant que parents, parce qu'on les voit, on voit bien souvent le rejet, l'incompréhension, le jugement.
Je ne porte pas de jugement sur ce rejet qu'ont eu ses amis, parce que c'était incompréhensible pour des grands jeunes de voir le... Ce copain intelligent, sportif, il était bon en tout,
oui.
Pratiquement. Donc il était demandé dans les équipes. Et le voir s'effondrer comme ça, pour eux, c'était totalement incompréhensible. C'était même pas intolérable, c'était incompréhensible.
Oui.
Donc la manière dans ces cas-là, quand on est jeune, ben, la plupart du temps, on s'éclipse discrètement et puis voilà, on coupe les ponts.
Oui, oui.
Et je ne porte pas de jugement moral surtout là-dessus, hein. C'est pas de cet ordre-là. Et c'est simplement, je comprends tout à fait cette réaction.
Et alors, cette lettre que vous avez envoyée qui expliquait les troubles de vos enfants, c'est une bonne chose? C'est une chose que vous conseillez de faire?
Ah oui.
Alors, il y a ça, il y avait les deux volets. Il y avait l'explication des troubles, et puis il y avait aussi dire, bon, voilà ce qu'on vit. Donc, on le disait assez, bon, assez nettement et assez crûment. Voilà ce qu'on vit. On ne cherche pas à tirer la pitié. C'est pas le problème, mais tout seul, n'en sentir pas.
Oui.
On a besoin de vous. Et voilà le type de service, par exemple, que vous pourriez éventuellement rendre selon vos talents, qui sont des petites choses de tous les jours, quoi. Hein.
Mm-hmm.
C'est comme ça qu'un ami s'est mis en route et a proposé ses talents de menuisier, qu'il a aidé Bruno à construire des petits meubles. Et ça s'est très bien passé.
Oui, ça lui a fait du bien à votre fils.
Ah oui, oui. Il a misé sur le goût de la précision de Bruno, puis en même temps, c'est les erreurs qu'il pouvait faire, comme le font tout bricoleur tout à fait moyen comme moi. Hein, mais ça, il le savait. Et il pouvait le guider. Il avait la patience de le guider.
Oui.
Et pour revenir à votre question, est-ce qu'on conseille... une lettre, bon, pour nous, ça a été ça, mais peut-être que c'est pas non plus la panacée. Ce qui est le plus important, c'est de faire comprendre à l'entourage de quoi il s'agit, pour éviter justement les jugements. Alors, l'entourage peut se trouver, d'ailleurs, comme nous, dans l'impuissance complète, mais au moins, il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est une maladie, il y a des maladies, il y a des graves cancers qu'on n'arrive pas à guérir, c'est ce genre de choses.
Puisque les jugements que vous pouviez avoir de personnes qui ne connaissaient pas, c'était vous n'êtes pas assez sévère, vous ne posez pas de limites, puisque votre fils, par exemple, ne se levait pas.
Vous n'avez pas coupé le cordon ombilical, enfin, c'était, voilà.
Oui.
Ou alors, c'est qu'une affaire de volonté, s'il veut, il va faire quelque chose, il faut éduquer sa volonté.
Oui.
J'entends encore notre fille dire, c'est pas que je veux pas, mais je peux pas. Et ce je peux pas, c'était... bon, un éducateur peut se rebeller contre ça, mais c'est une réalité qu'il ne pouvait pas. C'était c'est-à-dire plus fort que lui.
Oui, oui. Donc ça a été positif, cette lettre, en tout cas pour vous dans votre situation. Et puis il y a eu beaucoup de choses que vous racontez dans votre livre, on peut pas tout raconter, mais on comprend que ces difficultés, cette aidance qui prenait beaucoup de temps pour vous Philippe et pour vous Charlotte, c'était très dur pour vous, c'était usant pour vous deux.
C'était usant pour nous deux parce que Ben, quand on voit des symptômes, quand on vit des formes complètement irrationnelles de comportement, on a les bras coupés, si vous voulez, on ne sait plus quoi dire et quoi faire. Donc c'est éprouvant d'être là et puis quand même d'avoir à surveiller leurs faits et gestes parce qu'ils pouvaient partir vraiment dans des situations rocambolesques. Hein, du genre, Brigitte, elle avait repéré des personnes SDF et puis un jour elle en a ramené un pendant qu'on dormait.
Ah oui.
Un petit mot papier sous la porte en disant, ben voilà, il y a quelqu'un qui dort à la cave. Enfin, la cave, c'était un sous-sol. Et bon, et c'était des idées complètement saugrenues.
Oui, oui.
Et on avait beau expliquer, et la reprendre en lui disant, bon, ben, tu te rends compte de ce que tu as fait, les risques, etc. Mais elle pouvait recommencer peut-être un mois après. Hein, c'était...
Il y a eu d'autres SDF présents dans la périphérie de la famille quand nous avons dû nous séparer de notre fils et lui trouver un logement provisoire pendant un an en dehors de la maison avec interdiction de revenir dans la maison.
Oui.
Il a hébergé dans ce petit studio, disons, il a hébergé un SDF, puis deux. Le premier était relativement convenable. Le deuxième, c'était pas tout à fait pareil, c'était un authentique SDF avec son chien.
Oui.
Et donc à trois plus le chien, ça commençait à faire des gars. Et là, notre fils m'a supplié de venir et d'expulser les intrus.
Ce qu'il pouvait pas, il pouvait pas tout seul.
Ce que j'ai fait, ça veut dire que je ne serais jamais cru capable de faire ça.
Oui. Oui, c'est difficile. Et donc votre fils a dû revenir avec vous puisqu'il n'était pas assez autonome à ce moment-là.
Ben, il n'y avait, oui. avait pas d'autre solution.
Oui.
Et c'est là aussi que, quelquefois, il y a des psychiatres qui, enfin, je dirais quelque part, qui brûlent un peu les étapes parce qu'ils disent l'autonomie, il faut qu'ils s'insèrent dans la société, etc. Mais la preuve en était, là, dans cette expérience avec Benoît, que ben, c'était pas, comme vous dites, c'était pas encore mûr pour qu'il y arrive.
Oui.
Donc, c'était pas
alors...
possible, il se mettait en danger, et enfin voilà, c'était
oui.
des risques trop graves.
Charlotte et Philippe, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui, comme vous, sont aidants pour conserver leur propre santé, pour conserver leur santé physique et leur santé psychique, et pour continuer à être heureux et à ne pas être sous le poids de cette aidance?
Ben justement, c'est le fait de ne pas rester seul, de pouvoir participer à des associations où là, chacun peut parler parce qu'il est compris des autres personnes qui vivent des choses semblables. Et puis, ben le réseau dont je parlais a organisé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir justement souffler.
Partir des week-ends, tous les deux,
voilà. Oui.
Tout seul, avec quand même un téléphone... prêt à intervenir si jamais il y avait des dégâts, soit dans la maison vis-à-vis des frères et sœurs, soit ailleurs, donc il fallait qu'on soit là, mais toujours trouver le moyen d'être se mettre à distance et un peu à l'abri, puis ne pas penser qu'à ça, parce que sinon c'est complètement délétère. Hein.
Et avoir des activités qui font plaisir, qui font du bien... Parce que sinon, notre vie se rétrécit. Je me souviens avoir, dans le cadre de l'UNAFAM, j'ai fait des formations pour les parents, pour les familles, et ça aussi, c'est très, très précieux.
Oui.
Pour les familles. Et il y avait une dame qui se privait depuis des années de passer Noël avec ses autres enfants et qui restait seule avec son fils malade.
Oui.
Heureusement, l'atelier lui a ouvert les yeux sur le fait qu'elle était en train de mourir de solitude. Voilà,
oui.
Se priver de tout.
Oui, c'est le danger. Vous en avez pris conscience de ça et vous avez réajusté certains de vos comportements?
Ben, si vous voulez, c'est surtout que justement le psychiatre qu'on a vu au départ, il a été très clair aussi. Il a dit, bon, je vais vous aider, vous gardez Benoît à la maison, ce qui est très rare comme psychiatre dit ça au départ, parce qu'ils disent toujours il faut le laisser, il ne faut pas le couver, nanana.
Oui.
Donc, et il nous a dit, ben voilà, vous devez vous occuper de vous, parce que de votre couple, parce que la psychose a tendance à diviser. Et donc, il nous a presque donné l'ordre de partir un week-end ou un dimanche par mois. C'est comme ça qu'on a demandé de l'aide aux amis.
Oui.
Contre, voilà.
Mais même un week-end par mois, si vous aidez, si vous, vos enfants sont avec vous 24 heures sur 24, c'est peu.
Ben, c'est peu, mais c'est déjà ça. Hein.
Oui. Oui, vous n'aviez pas le choix de toute façon.
Ben oui, on ne peut pas partir, on ne pouvait pas partir non plus toutes les semaines.
À partir du moment où ni pour l'un ni pour l'autre, il y avait des lieux d'hébergement permanents toute l'année, parce qu'on a vite fait l'expérience que on se cherche d'abord hein, où ils pouvaient être bien, l'un et l'autre, ailleurs que chez nous. Ben non, il n'y avait pas les conseils de ce psychiatre étaient bons. Il fallait les garder avec nous pendant un moment, jusqu'à ce que se dessinent peut-être quelques lieux possibles à laisser, ou avec notre fille, ça a été plusieurs décès hein, qui ont duré des semaines et des mois. Hein, c'est,
oui.
Notre fils, pareil. Et c'est par des chemins, d'autres chemins finalement, que c'est passé pour notre fils, ça a été cette rencontre quasi miraculeuse de sa future femme. Et bon, mais ça, à l'occasion d'un achat dans une boulangerie. Et pour notre fille, ça a été plutôt cette capacité de relation qu'elle a, de créer. Ça me fait des signes.
Oui. Votre couple, il a perduré, alors qu'on sait que lorsque un enfant est en situation de handicap, souvent le père s'en va, enfin c'est très très fréquent dans ce type de handicap. Vous êtes restés ensemble, vous êtes restés soudés. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous avez pu tenir?
C'est grâce à ces conseils du psychiatre d'une part, grâce à ce réseau d'aide qu'on a pu constituer. Et puis, notre foi aussi. Hein. C'est vrai que, voilà, nous sommes chrétiens et, mm-hmm. et la foi nous a quand même beaucoup aidés.
Mais vous y avez pensé?
On y a pensé à quoi?
De vous séparer de... Non, ça n'a jamais été,
non,
été question.
Je sais que le psychiatre que nous voyions tous les deux régulièrement, une fois ou l'autre... à essayer de provoquer quelque chose comme ça, un incident, en disant que c'est pas possible, c'est complètement lisse tout ce qui se passe chez eux. Donc, il doit y avoir quelque chose, il camoufle quelque chose, quoi.
Oui.
Des sentiments. Et je me souviens très bien d'une séance où il y a eu, j'ai eu une épouse qui a un tempérament, disons, plus volcanique que le mien. Et le psychiatre se tournant vers moi, me disant, enfin, vous réagissez pas. Je ne voyais pas. Moi, je ne voyais pas pourquoi réagir. J'avais d'autres moyens de réagir et de comprendre ce qui se passait. C'était pas mon tempérament. C'est bien qu'il n'y a jamais eu de... Allez, on peut le dire, je ne pense pas que maintenant on risque. Il n'y a jamais eu de grande scène où l'un qui fiche le camp et l'autre qui trouve le moyen de se réconcilier ou pas. Donc franchement, on a heureusement, je peux dire... nos tempéraments complémentaires ont fait qu'on a pu respecter ces modes d'expression et puis tenir le coup.
Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas dire, est-ce qu'on peut se permettre de dire à son conjoint, à son mari, à sa femme, là j'en ai ras-le-bol, je pense que je fais plus que toi, il faut que tu lui mettes un peu du tien, ça arrive ça?
Oui, ça peut arriver.
Oui, oui, oui.
Ça, c'est sûr.
Oui.
C'est des ajustements même dans la vie de
quotidienne. Oui, en dehors même de la maladie. Hein,
oui. On est fatigué et qu'on voit que l'autre ne se rend pas compte de la fatigue qu'on a, c'est vrai qu'on peut être tenté de faire des reproches.
Est-ce qu'il faut les faire, ces reproches, ou pas?
Comment?
Est-ce qu'il faut les faire, ces reproches, ou pas, pour continuer à vivre en harmonie?
Il y a des moments où ça fait du bien.
Oui,
oui c'est ça. Il ne faut pas garder sur le cœur.
Oui, c'est ça. Des ajustements, il faut tous les... tous les conseillers de couple le diront, il y a des moments où il faut que les choses se disent quand même. Voilà, il faut trouver le cadre, le moyen, peut-être ces week-ends où justement on partait tous les deux, c'est pas seulement idyllique, nouveau voyage de noces. Hein. C'était l'occasion de se dire des choses aussi qui n'étaient pas forcément très agréables.
Oui.
Et ça, c'est indispensable.
Oui.
Et le psychiatre a été très vigilant au début aussi. Il nous avait flairé, il nous avait vu arriver avec de bons cathos, plein de bonnes œuvres, etc. Et il nous a testé là-dessus pour savoir justement en quoi la foi pouvait nous aider si ce n'était pas une espèce de cautère sur une jambe de bois. Quoi. Et c'est. Il a fini par nous dire je vois que c'est quelque chose qui vous construit, alors je vous fiche la paix. Quoi.
Oui.
C'est un peu ça que ça voulait dire.
D'accord.
Parce que ce n'était pas incohérent, pas du tout incohérent avec notre manière humaine, j'allais dire, de tenir le coup. Tout ça se tenait bien.
Oui.
Parce qu'on espérait, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce titre de l'espérance. Hein. Et puis, nous a été soufflé par l'éditeur, mais on était tout à fait d'accord, parce que c'est bien au-delà des espoirs humains, c'est même quand tout s'écroule et qu'on ne voit pas les issues, c'est qu'il y a à un moment donné une espèce de boussole qui fait de confiance. Oui, je ne sais pas le définir autrement. Alors on peut l'appeler la foi, on peut l'appeler suivre le Christ, donc ce qu'on veut, mais c'est quelque chose qui est au-delà de nous et qui nous fait tenir.
Oui. Philippe et Charlotte, on arrive au terme de l'émission. Je voulais qu'on voit. Alors, vos deux enfants ont aujourd'hui la cinquantaine. Ils sont. Votre fils a deux enfants. Il est marié. Votre fille est en foyer d'accueil médicalisé. Donc, elle vit bien. Elle est heureuse, j'imagine, aujourd'hui. Et vous, est-ce que vous êtes toujours aidant?
Oui, mais beaucoup moins. On l'est encore avec Brigitte, parce qu'elle appelle tous les jours, parce qu'elle demande ci, elle demande ça. Enfin bon, il faut un peu rectifier le tir sur ses demandes. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Hein. On ne les a pas au quotidien. Et notre fils, lui, petit à petit, ben justement, grâce à son mariage, à la présence de ses enfants dont il s'occupe bien, il a beaucoup évolué. Ça n'empêche qu'il a des symptômes toujours de panique ou d'angoisse, mais bon, il gère son quotidien le mieux possible.
Oui.
Mais il faut dire aussi que Bruno a la capacité a la capacité de raisonnement pour comprendre ce qu'il fait ou ce qui est bon de faire ou pas. Et il est suivi depuis, je sais pas, 20 ans par une psychanalyste et il a quand même vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Alors que Brigitte n'a pas cette capacité.
Oui.
Elle avait essayé au début de ses troubles, mais là, la psychiatre, psychothérapeute avait dit non, finalement. Elle ne peut pas tirer profit des séances parce qu'elle n'arrive pas à
formuler ou à verbaliser.
Oui, ou même à déduire ce qui a été dit, en tirer les conséquences. Non.
Oui.
Donc,
oui.
C'est vrai que on parlait des traitements absolument indispensables. C'est vrai qu'une psychothérapie, c'est aussi très aidant pour les malades.
Effectivement. Comme il reste très peu de temps, Philippe et Charlotte, je vous coupe, je suis désolée. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites et que vous pourriez conseiller à d'autres aidants de ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça?
Un petit risque que je vois, c'est quand on a dans les différentes solutions qui sont proposées, parce que dans les échanges qu'on peut avoir, association ou autre, il y a toujours des personnes qui ont trouvé la solution.
Oui.
On se dit, ça y est, cette fois-ci. Alors, deux erreurs, c'est soit c'est la solution, je la prends, et puis, manque de chance, ça ne marche pas. Soit je me culpabilise, parce que je me dis, mais comment ça se fait? Oui, j'y arrive, et moi, j'y arrive pas. Donc, c'est quand même... Il faut que je trouve quelque chose qui a l'air aussi bien que ce que les autres ont trouvé. Et ça, c'est deux écueils. La culpabilité, c'est terrible. Hein. C'est ça enfonce plutôt qu'autre chose. Il faut trouver, il n'y a pas la solution.
Oui.
C'est dire, s'obstiner à chercher et à tirer le sang des échecs plutôt que de dire d'éviter l'échec. On est allé d'échec en échec. En ce qui concerne notre fille en particulier, et puis notre fils aussi.
Oui.
On ne peut pas avoir peur de ça.
C'est normal.
Avec le recul.
C'est normal, on ne peut pas...
Ben oui, c'est normal, c'est par là qu'on progresse.
Oui.
Alors, il y a peut-être aussi une erreur qui me vient, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, même s'il reste peu de temps, c'est les frères et sœurs.
Oui, oui.
Et ça, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez mesuré la souffrance qu'ils avaient. Notre fille aînée, elle a pu nous en parler des années après. Et notre dernier, il est encore à peine viré guéri des conséquences. Parce que notre fille aînée, elle était partie de la maison. Donc elle a moins vécu les 24 heures sur 24 avec ses frères et sœurs malades, avec les crises de violence, etc. Mais tandis que notre dernier fils, lui, l'a vécu. Donc c'est vrai qu'il garde quand même une peur, parfois un recul, disons. Voilà. Mais en même temps, entre les uns et les autres, il y a quand même beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de rejet. Il y a eu l'éloignement qui était sûrement nécessaire. Des frères et sœurs qui ne sont pas malades, mais voilà, il y a de l'amour qui circule quand même pour leurs frères et sœurs malades.
Oui, oui. Ce que vous conseilleriez, Charlotte, c'est de ne pas porter, enfin c'est compliqué, mais d'essayer de porter aussi beaucoup d'attention aux autres, à ceux qui ne sont pas malades.
Oui, oui, oui. Oui, ça je pense. Et là, c'est vrai que l'UNAFAM a aussi organisé maintenant des sessions, enfin des rencontres pour les frères et sœurs, l'Office chrétien des personnes handicapées aussi. Ça, je crois que c'est quand même des choses qui ont évolué et qui sont très bénéfiques pour les frères et sœurs.
Oui, oui, on prend de plus en plus en charge les frères et sœurs qui souffrent aussi de ces situations. Oui. Philippe et Charlotte Frange, je vous remercie de votre participation à cette émission.
Merci à vous aussi.
Et voilà, on espère que ça pourra aider des familles.
Mais je l'espère également, je pense que ça va aider. En tout cas, on peut voir votre témoignage, on peut le lire. L'espérance est un chemin escarpé aux éditions MAM, M-A-M-E. Je vous remercie Philippe et Charlotte et bonne journée à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.